All right, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal, un nouvel ou un ancien épisode de la Confrérie de métal avec Maxime, Docteur Saint-Onge, qui est un comeback sur le podcast. Maxime, bien content de te recevoir, merci de prendre le temps aujourd'hui, c'est un plaisir que tu sois là, encore.
Hey, merci de me sortir des boulamites.
Ah ouais, ça fait plaisir, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a réussi à sortir Maxime de sa cave, de son ermite. Maxime, on l'a extirpé, moi puis toute l'équipe de la Confrérie de métal, en étant juste dans le fond sur une compagnie où est-ce que je suis solo, évidemment. Fait que dans le fond, j'ai sorti Maxime de sa grotte pour le ramener sur un podcast pour parler d'un sujet qui est très, très chaud, très, très, très actuel. Je ne sais pas à quel point c'est chaud actuel, sérieusement. J'ai comme l'impression que c'est un de ces nombreux sujets qui restent, puis qui fight, puis qui revient, mettons. Parce que je me rappelle que justement, au CrossFit Games, en genre 2021, il y en avait de ça. Mais avec, je pense que c'est Huberman, entre autres, qui a comme ramené ça, Andrew Huberman, comme, qui a remis ça pas mal à la mode sur la map récemment.
Ouais, Wim Hof,
Ouais.
etc.
Ouais, mais Wim Hof, c'est plus vieux un peu, par exemple. Wim Hof, c'est comme pas cette année, là.
Ouais, mais ça traîne encore, là, tu sais, mais c'est ça. Mais, écoute, je pensais que tu étais parti sur une lignée de faire des jokes de température, là, tu sais, comme bon, j'ai chaud, moi, ça m'a laissé tiède.
J'aurais pu. Ça ouvre quand même certaines possibilités. T'as raison, je m'en veux de ne pas les avoir prises, en fait. Mais aujourd'hui,
Oui.
on est là pour parler exactement comme tu me l'as dit, de température, mais surtout de froid et d'exposition au froid. C'est quelque chose qui est très, très, très présent dans le monde de l'entraînement, définitivement. Aujourd'hui, on va présenter une étude sur le frame des anciens Science Review, quelque chose de tout nouveau. C'est genre février 2024, date de publication, fait relativement, littéralement le mois passé. Ou en fait, il y a une couple de jours, dans le fond, que c'est sorti au sens propre de la chose. Fait que c'est quelque chose de relativement récent. Puis, on va tout checker ça ensemble. On va se concentrer un petit peu plus sur la partie entraînement, l'effet que ça a sur l'entraînement, principalement sur l'hypertrophie. Puis après ça, on va probablement dévier un peu sur la récupération. Fait que c'est-tu bon? C'est-tu pas bon des bains de glace? Puis on va attaquer ça avec l'étude en question. Première affaire, je vais présenter l'étude. Puis après ça, je vais laisser Maxime faire sa petite magie, faire ses petites affaires avant de le relancer dans sa grotte. L'étude, c'est Pinero et al. 2024, c'est sorti du lab du très fameux qu'on a déjà parlé, je pense, une couple de fois sur le podcast, qui est Schoenfels-Coenfield, l'homme dont le nom restera imprononcé parce que. Toi, c'est quoi, tu penses?
Sconfeld.
Schoenfels, tu penses?
Ouais, comme tu le sens,
Moi, j'ai
lab.
Schoenfels. Ouais, moi, j'ai Schoenfield en tête, j'ai l'impression. Je prononcerais Field, mais je ne sais pas à quel point c'est ça. Mais anyway, le gars s'appelle Pinero, premier auteur. L'étude s'appelle Throwing Cold Water on Muscle Growth, a Systematic Review of the Effect of Post-Exercise Cold Water Immersion. Pardon, hey, man, mon anglais parlé, il n'est pas vergeux. Il va falloir qu'on fasse plus de science review. Mais dans le fond, une étude, une méta-analyse, qu'est-ce qui se passe si on fait de l'exposition au froid après l'entraînement? Il y a quand même pas mal de monde qui vont dire que ça va booster la récupération. Il y a du monde à l'inverse qui disent que ça va limiter ça, que le froid, en fait, a un effet anti-inflammatoire, donc ça va limiter les gains musculaires. On en est où là-dedans? Maxime.
Écoute, déjà quand tu vois une revue systématique et une méta-analyse, c'est de la job, là.
J'ai-tu dit que c'est une méta-analyse? Je pense que je ne l'ai même pas dit. Hein? Ouais,
Ah
c'est une méta-analyse.
ben, je me permets de le dire, là.
Ouais,
T'sais,
c'est bien, man. C'est bon, ça,
c'est
ouais.
des statistiques souvent assez compliquées, là. En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste de méta-analyse. Je me suis acheté un livre là, sur les méta-analyses pour essayer de mieux comprendre parce que c'est assez ardu souvent, mais
Moi,
dans
j'essaie de les
l'ensemble, on
lire
voit.
en ce moment, mais c'est correct,
Ah.
vas-y.
Fait que, ouais, c'est vrai le même genre d'affaires.
Hey, t'as-tu lu Dune, pour vrai? T'as-tu essayé de lire Dune?
Et je l'avais commencé il y a longtemps, puis j'ai switché au film.
Hey, c'est.
Le vieux, vieux film, là.
Ouais, c'est
Ouais.
fucking. C'est lourd à lire, sérieusement. Je sais pas
Ouais.
qu'est-ce qui est le plus lourd à lire, Dune ou ça. Mais.
C'est comme un peu. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est comme un peu Germinal, là, mais en version science-fiction, là.
Je sais pas c'est quoi Germinal, mais le style narratif, c'est quelque chose pour vrai. Genre, c'est le
Très
fun des.
descriptif,
Ah,
puis.
oh, c'est le fun des dialogues. C'est le fun quand le monde jase entre eux en général. Mais vas-y,
Ouais.
pardon, pardon, pardon.
Ouais, fait que ben c'est ça, tu sais, on en parlait tantôt, ça revient souvent, là, tu sais, l'exposition au froid, l'immersion, parce qu'il y a différentes façons, là, maintenant on nuance un petit peu plus, tu peux t'immerger, tu peux juste appliquer du froid, il y a ces cossins-là, mais tu sais, ça revient, là, on dirait que tu fais une couple de vidéos, là, sur ces réseaux sociaux, puis là, ben ça part une mode là-dessus, puis tout d'un coup, ça devient révolutionnaire. Ça fait tout. Ça prolonge l'espérance de vie, ça fait perdre du poids, ça améliore la récupération, tout, ça améliore écoute, la peau est plus belle. Bon, tu sais, à un moment donné, il faut se calmer, là, puis il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté en disant, bon, ben, tout le monde dit que c'est bon, là, ça doit être pourri, puis ça ne doit vraiment pas marcher, puis c'est juste un scam. La méta-analyse, dans le fond, de l'équipe de Schoenfeld. Je pense que... Ben, tu parlais d'un nom difficile à prononcer, là. Yozo, là, ou Orzo, ou je ne sais pas trop, là. Je me suis vraiment désolé parce qu'il a fait des bons... Il en a fait une couple de méta-analyses, mais tu sais, quand ton nom de famille, c'est G-R-G-I-C.
Je ne sais
même pas de le prononcer.
Non plus, ouais, c'est ça, on n'ouvre pas cette porte.
Donc, c'est ça. Fait qu'il a collaboré une couple de fois avec Schoenfeld.
Tu me permets une parenthèse avant qu'on ouvre.
Allez, vas-y, parenthèse.
Parce qu'en parlant de parenthèse de recherche, moi, j'avais quand même fait une grosse étude pour le projet de maîtrise, à mon projet de maîtrise que j'avais publié. Puis dans le domaine, c'était quand même big ce qu'on avait fait. Pas parce que mon étude était big, à cause que ce domaine-là est particulièrement sous-financé. Puis nous autres, on avait du financement. On a quand même réussi à faire de quoi juste pour cette raison-là, tu sais. Puis mon nom, et pour la plupart des Québécois, mon nom est fucky, là. Mon nom de famille, tu sais, Busque, mettons, là. Fait qu'imagine un anglophone essayer de m'appeler pour prendre des informations en prononçant mon nom et dire Mr. Busque, là. Ah, mon Dieu.
Biuski.
C'est excellent. Je les ai tout entendus. J'ai déjà entendu un gars mettre un O là-dedans. Puis là, j'étais comme, okay, tu peux massacrer Bus, c'est correct, mais ton O, il sort d'où, bro? Mais anyway, ça va dire, ouais. Fait que parenthèse, Bus en anglais par une couple de chercheurs, réalistiquement norvégiens qui parlent anglais, là. Ah, man. C'est excellent. C'est parfait. mais pardon, qu'est-ce que tu disais, ouais.
Good. Fait que, ben, c'est ça. Ils sont intéressés à ramasser pas mal d'études. Là. Ils ont quand même ratissé large. Ils ont été chercher beaucoup d'études pour voir les effets là-dessus. Dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des tests statistiques à partir de chaque résultat qu'ils ont obtenu des études qu'ils jugent pertinentes, qui rencontrent certains critères. Puis ça permet d'avoir, si tu veux, un score, le SMD, qui va nous permettre d'évaluer le poids relatif ou l'effet relatif de quelque chose. Fait que je ne veux pas nailler personne dans les statistiques, mais tout ça pour dire que ben, un SMD qui est présenté dans l'article, plus c'est haut, plus ça veut dire que quelque chose a un effet sur quelque chose. Donc, plus c'est important. Même que ça soit significatif, pas significatif, ce n'est pas tant ça qui est important. C'est plus de dire l'ampleur de l'effet sur, mettons, la récupération ou l'augmentation de la masse musculaire. Fait que, c'est cette statistique-là principale qui est utilisée dans l'article pour déterminer si ça marche ou si ça ne marche pas. Puis c'est ça que les chercheurs, dans le fond, ils se sont penchés là-dessus pour voir de quel côté ça bascule. Est-ce qu'effectivement, ça a un impact négatif sur les gains en masse musculaire? Parce que si on fait un topo, là, l'exposition au froid ou l'immersion au froid plus spécifiquement, mais tiens, tout le monde, de façon globale, va dire que ça améliore la récupération. Bon, le problème qu'on a, c'est que de plus en plus, moi, je pense qu'on ne devrait pas dire la récupération, mais on devrait dire les récupérations. Parce qu'on a plusieurs systèmes, plusieurs capacités qui récupèrent à des rythmes différents et qui n'ont pas les mêmes besoins en récupération. T'sais, juste un exemple, ben, si tu t'entraînes avec l'entraînement aérobie cardio, tes réserves de glycogène, c'est un facteur de récupération qui est beaucoup moins important que si tu t'entraînes en musculation. T'sais, faire des grosses séries en force, tes réserves de glycogène, ça ne sera pas trop hypothéqué. Ben, aller faire un jogging de 30-45 minutes, tu peux T'sais, ça change, tendance à mettre la récupération en dessous du même chapeau. Puis là, dire, ben, c'est bon pour la récupération. Ben, attends, c'est-tu bon pour la récupération énergétique? C'est-tu bon pour la récupération au niveau circulatoire, au niveau du système nerveux? Encore là, au niveau du système nerveux, est-ce que c'est la division sympathique ou parasympathique du système nerveux autonome? T'sais, ça vient compliqué. Fait qu'on ne peut pas juste dire, récupération. Puis, on commence là, à utiliser différents marqueurs. T'sais, on va utiliser des marqueurs inflammatoires. On va utiliser la variabilité cardiaque pour le système nerveux autonome. On commence à tenter d'utiliser la bioimpédance pour essayer de mesurer l'état des réserves de glycogène de façon un peu plus de terrain.
Je ne savais pas que ça, c'était possible.
Potentiellement, parce que la bioimpédance va être beaucoup influencée par la teneur en eau du muscle. Puis comme ton glycogène se stocke avec de l'eau, si tu mesures l'impédance mettons, des quads, ben tu vas avoir une idée.
Si tu as des mesures comparatives. Jusqu'à un certain point, ben ouais, c'est ça.
Exact. Fait que tu peux avoir une idée. Là, de les...
fou, ça, ouais.
Fait qu'on avait travaillé là-dessus une couple d'années, là, mais potentiellement, c'est intéressant, tu sais.
C'est vraiment drôle quand la dernière conversation que tout le monde a eu sa bioimpédance, c'est Maxime, mais où ta bioimpédance? Quelque part dans un garde-robe. C'est quand même intéressant que ça soit toi qui dise que la bioimpédance a de valeur, mettons.
Ah non, ça en a une valeur. Hey, écoute, ça en a une. Ça en a une, c'est intéressant comme outil. Je pense que c'est souvent mal utilisé. C'est la distinction.
C'est souvent facilement utilisé. C'est l'option facile à mettre, disons, dans un gym, écoute, dans le coin, puis les 20$ pour une consultation ou est-ce que tu embarques quelque chose de machine, ça prend 2 minutes. C'est un gros modèle d'affaires. Disons les plus comme ça, genre.
Mais quand tu ne connais pas les limitations, d'ailleurs, avec un gym, là, présentement, on fait un petit projet bien le fun où est-ce que j'ai demandé au staff à toutes les heures de se faire une bioimpédance pendant leur chiffre de travail pour voir c'est quoi la variabilité, tu sais.
Qu'est-ce qu'on a comme mesure? Le monde doit capoter bien raide,
ben, c'est super intéressant. Puis on va sortir des stats pour leur appareil. Puis ils vont pouvoir savoir, ben OK, mon appareil, moi, je sais que j'ai une variation de plus ou moins 200 grammes, c'est à masse meg. Fait que là, je peux travailler avec ça. Une fois que tu connais les limites, ça devient un outil bien meilleur.
T'as raison. Ça, c'est bon.
Fin de la parenthèse, ça a bien pédance. Fait que tout ça pour dire que l'immersion dans le froid, dans le fond, on a commencé à utiliser ça beaucoup pour, OK, ça promouvoir la récupération. Si on récupère mieux, on va être capable de faire plus de volume d'entraînement par semaine. Si on fait plus de volume d'entraînement par semaine, plus de gains, c'est super bon. Let's go. Tout le monde, on s'en va dans les bains glacés. Après ça, il suffit qu'il y ait une couple de films de sport, Hollywood et compagnie, que tu vois quelqu'un dans un bain de glace, puis c'est fini, la mode est poignée, tu sais. Sauf que, ben, quel effet ça a? T'sais, là, il y a une couple d'études qui ont commencé à nuancer, que de dire, ben oui, ça semble réduire les symptômes ou la perception de l'état de fatigue, mais ça ne semble pas nécessairement améliorer, par exemple, le temps de récupération pour la force musculaire. T'sais, ils ont fait des tests sur l'isométrie, puis ils ont remarqué que les gens sentaient qu'ils avaient récupéré, mais ils ne faisaient pas des meilleurs tests en force que ceux qui n'avaient pas fait l'immersion par le froid. Fait que, ça change ta perception, ce qui fait partie du processus de récupération, mais au final, si tes capacités n'ont pas récupéré, ben, tant mieux si tu te sens bien, mais tu n'es pas mieux. Fait que tu n'as pas vraiment récupéré. Fait qu'il faut faire attention. Puis l'autre chose, là, il y en a qui sont commencés à se poser des questions parce que ça affectait le niveau de la réponse inflammatoire. Donc, la réponse inflammatoire, l'action du système immunitaire suite à un effort, un traumatisme, etc. Puis là, dans l'hypertrophie, la réponse inflammatoire, ben, c'est un mécanisme important. C'est un déclencheur, c'est un précurseur super important de l'ensemble des processus hypertrophiques. Fait que si tu n'as pas de réponse inflammatoire, ben, ça va affecter tes gains potentiels en hypertrophie. On l'a vu avec, par exemple, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, où est-ce qu'on se disait, ben là, il ne faut pas que tu prennes ça parce que si tu en prends, ça peut avoir un effet là, sur ta capacité hypertrophiée. Encore là, tu sais, toi puis moi, quand on s'entraîne en hypertrophie, je ne suis pas sûr que parce qu'on prend des Tylenol, on ne gagnera pas de muscle. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui s'entraîne fort et qui dit, moi, je prends mes deux, trois Tylenol après chaque workout parce que sinon, je suis trop magané et j'ai trop mal. Peut-être pas une stratégie winner, tu sais.
On parle, mais à ma connaissance, c'est vraiment juste aux anti-inflammatoires, ça. C'est pas les Tylenol, c'est pas des anti-inflammatoires. L'acéminotophène,
c'est pas des anti-inflammatoires. Les Tylenol peuvent jouer là-dessus, mais ça me semble que ça rentre par voie connexe, là. Il me semble.
C'est ça. J'avais cru croire que c'était vraiment juste au niveau des anti-inflammatoires.
Pourrait, mais...
Ouais, ben anyway, c'est ça. C'était plus une question, je te dirais, là, mais
Mais tu fais bien de le mentionner parce que j'ai pas une certitude absolue là-dessus, mais il me semble avoir vu quelque chose passer là, sur le Tylenol là-dessus.
Ben, ça serait vraiment pas surprenant, sérieusement. Mais moi, tout ce que j'avais vu, c'était vraiment juste au niveau de la prise anti-inflammatoire orale. Puis les Tylenol, l'acéminotophène, ça rentre dans un autre type de médication parce que ça joue pas sur l'inflammation. Mais anyhow,
qu'est-ce que tu veux dire? Alors, c'est ça. Fait que là, on s'est dit, ben si on fait un traitement au froid, puis on réduit la réponse inflammatoire, parce que c'est une des revendications, si tu veux, du procédé, là, l'immersion par le froid, peut-être qu'on va affecter la capacité à gagner du muscle. Fait que là, ben, on a commencé à avoir une couple d'études là-dessus. L'équipe de Schoenfeld qui trippe bien gros sur le bro science puis les gains de masse musculaire, pas surprenant qu'ils fassent quelque chose là-dessus.
Ils font que ça.
Exact. Fait que tu te ramasses à avoir cette méta-analyse-là qui regarde, puis en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont effectivement démontrer que ça a un effet sur le potentiel d'hypertrophie. Donc là, être méchant puis lire les affaires en diagonale, je dirais que hey, ça fait perdre du muscle de faire de l'immersion par le froid, faut pas faire ça, c'est dangereux. T'sais, mettons, on va avoir le. On veut que ça vire viral, là, ben là, on va bitcher. On va dire, si vous voulez perdre du muscle, fait de l'immersion par le froid, c'est ce qui va arriver. Mm. C'est pas tout à fait ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que lorsque tu vas avoir de l'immersion par le froid, ça réduit tes gains en hypertrophie. Ça ne fait pas perdre de muscles. C'est juste quelque chose qui affecte légèrement ton potentiel hypertrophique. Mm. Fait que ça serait, fait que, t'sais, le bodybuilder qui veut gagner de la masse musculaire, qui s'entraîne et qui dit « faut que je fasse des immersions par le froid, c'est un paquet de troubles, je vais m'acheter un bain portable à 6 000$ pour me caler dans l'eau en bas de 15 degrés, même si je trouve ça horrible parce que ça va améliorer ma récupération », ça ne serait pas une stratégie intelligente. Ce ne serait pas un bon investissement. T'sais. Un, parce qu'il n'aime pas ça, il n'y a pas de fun, puis ça coûterait cher.
C'est ça.
Puis, dans l'étude, mettons à page 184, tu as vraiment le graphique là, que, pour avoir l'air intelligent, là, c'est le Bayesian Forest Plot qui compare
les différents standards. Moi, quand j'étais en maîtrise, là, ça commençait les statistiques bayésiennes, puis j'étais comme cette merde est fucking. C'est ça mon raisonnement, genre. Ben, je peux pas dire que je comprends ça.
C'est écoute, je ben honnêtement, je c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, là. Ouais. Tu sais, c'est plus que, dans le fond, c'est que c'est pas un modèle probabiliste de fréquence. Mm. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on utilise des statistiques bayésiennes dans ces modèles-là, c'est qu'on va induire des conditions. C'est un peu comme de l'intelligence artificielle, où on va induire certaines conditions dans l'analyse statistique pour orienter l'analyse. Ça ne vient pas uniquement une fréquence de dire ben, combien de fois quelque chose est arrivé. Il y a certaines conditions qui ont plus de poids, par exemple. En tout cas, c'est ma compréhension là, de l'analyse. Mm. Bref, c'est ça, à page 184 de l'article, tu vois des petites montagnes, un genre de petites distributions simili-normales qui sont pour chacune des études. Dans le fond, c'est on compare la moyenne, le chiffre que je parlais en début, le SMD, là, qui est la statistique qu'eux autres ils retiennent beaucoup dans cette étude-là. Puis si tu regardes la figure là, qui est la figure 2, elle va vraiment. L'ensemble des études qui ont observé l'immersion par le froid et qui ont rapporté des données sur l'hypertrophie vont tendre vers une limitation des gains en hypertrophie. Mmh. Fait que c'est assez clair qu'il y a un petit effet, et ça aussi c'est important de le nuancer, il y a un petit effet négatif sur tes gains en hypertrophie quand tu vas faire ça.
On parle de petit effet, mais on parle de quelle grosseur de l'effet, Maxime?
Ben écoute, le petit effet, tu vois, eux autres, là, leur SMD, là, il est en bas de 0,3. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est un gros effet de SMD, c'est 0,8.
Okay.
Mettons que c'est en 0,8 et plus, là, tu as quelque chose de wow, OK, là. T'sais. Là, tu as un effet qui est quand même, écoute, en moyenne, là, je pense que c'est 0,22.
OK. Fait,
c'est ouais. Tranquille comme effet. C'est quelque ça. Chose de tranquille. C'est pas. Fait que, tu sais, si toi, tu tripes à faire de l'immersion par le froid parce que tu te sens mieux après, puis t'es bien, puis t'es heureux, puis ben écoute, fais-les. Ça va peut-être affecter un peu tes gains en hypertrophie. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres variables qui peuvent l'influencer. Mais c'est ça, ce ne sera pas la fin du monde. T'sais. Sauf qu'à l'inverse, tu dis il faut absolument faire ça parce que, un, tu récupères plus. Si tu récupères plus, tu t'entraînes plus. Ce n'est pas si clair.
C'est ça.
C'est, ta récupération ne sera pas nécessairement bien, bien mieux.
J'allais dire, tu sais, un bémol que moi je mettrais là-dedans, parce que je pense que juste pour jouer à l'avocat du diable, littéralement juste pour être une bitch en ce moment, uniquement pour cette
raison-là. Écoute, c'est ta spécialité.
Exactement, c'est ça. Certaines personnes ont des connaissances, d'autres font avec ce qu'ils ont. Mais juste pour jouer à l'avocat, tu sais, j'ai tendance, quand tu dis ça, la première chose qui me vient en tête, c'est plus la même limitation que toutes les études qui vont se passer en termes d'hypertrophie, à savoir que. Mais pas toutes, mais beaucoup. Une limitation très, très fréquente lorsqu'on parle de prise de masse, c'est que, somme toute, la magnitude ou l'effet réel de l'hypertrophie est très minime, de genre mathématiquement parlant. Si on s'avance à ajouter une livre de masse maigre sur un corps de 180 livres, admettons, poids moyen d'un homme ish, mathématiquement, c'est fucking insignifiant. Genre, c'est 1 sur 180, ça veut rien dire ou presque, c'est vraiment un petit chiffre. Une livre de masse musculaire sur un gars de 180 livres en 6 à 8 semaines, d'où c'est du progrès fucking significatif. Là. Réalistiquement, tu vas commencer à avoir des résultats dans le miroir après une livre, tu sais. Fait que t'es comme dans un effet où est-ce que tu te ramasses dans cette situation-là, où est-ce que t'es comme l'effet sur l'hypertrophie, l'effet dès l'intervention est tellement petit que même si tu as une petite réduction de l'effet, idéalement, tu ne voudrais pas tant le baisser parce que ton effet n'est pas si gros à base, right? Mathématiquement. Je ne sais pas ce que toi, tu penses de ça. Fait que, moi, quand tu parles... Qu'est-ce que tu dis, excuse?
Non, non, vas-y.
J'allais dire, moi, quand tu parles de ça, la seule affaire qui me vient en tête, c'est plus le risk-reward ratio. Tu es comme juste genre, s'il y a un effet irréalistiquement négatif, all right, l'effet est somme toute négatif, est vraiment, vraiment petit, puis réalistiquement touche l'insignifiance, mettons, disons-le comme ça. Il y a une signification clinique, il y a une signification statistique, mais sa signification clinique est très, très discutable, mettons, mais t'es comme, niveau entraînement, c'est probablement pas quelque chose qui vaut la peine de prendre une chance avec, si tu valorises les gains en entraînement par-dessus tout, ce que beaucoup de monde font, qui vont écouter ce podcast-là, mettons, tu sais, je pense.
Ouais, puis tu sais, il faut que tu regardes pratico-pratique, c'est pas évident, tu sais, c'est pas, tu sais, là, je sais qu'il y a une mode, là, d'en vendre, là, des bains portables, là, pour ça, mais tu sais,
faut que tu le remplisses, ton fucking bain portable,
ben, c'est ça. Faut que tu le remplisses, faut que tu l'entretiennes, parce que, écoute, ça... Écoute, ça fait des champignons, ça fait des... Bon, etc. Là, tu sais, faut ça se nettoie, c'est du trouble, c'est pesant. Tu sais, ça en est des litres d'eau, là. Tu sais, un litre d'eau, c'est un kilo, là. Fait que c'est du... En tout cas, fait que c'est pas évident à utiliser, à avoir quelque part. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des limites. Ensuite de ça, ben, si tu as accès à ça, là, ben, tu sais, moi, il y a toujours une question d'hygiène. Moi, les bains glacés que j'ai vus, c'était rarement propre, là, tu sais, parce qu'ils se disaient, ah, ben, c'est fret, il n'y aura pas de développement de bactéries, ben, ben, là-dedans. Ben, tu sais, il y avait bien du monde, moi, qui pissait là-dedans, puis que c'est ça.
Pas vraiment que tu sortes de Montréal, Maxime, pas vraiment que tu sortes de Montréal.
Ouais,
ça va être comme tranquillement pas vite, hein.
Mais tu sais, il y a tous ces facteurs-là, je trouve, qui jouent aussi beaucoup là, dans l'aspect pratico-pratique là, de le faire. Là.
Mm-hmm. J'argumenterais peut-être, moi, je me sers des douches glacées parce que j'ai une blonde qui a un syndrome de Raynaud, qui est, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une maladie...
Quelqu'un qui rénove tout le temps, c'est ça?
C'est tellement tannant, man, c'est tellement tannant. Il y a constamment des projets de rénovation dans ma maison. Puis non, en fait, ma blonde, la maladie qu'elle a, c'est les plantes puis les meubles. Ça, c'est sa réelle maladie qu'elle a. Ça prendrait un diagnostic pour ça. Maladie de Raynaud, essentiellement, c'est un problème au niveau d'extrémité qui fait que la chaleur se rend moins au niveau... Ça affecte plus souvent les mains puis les pieds. Puis ça fait que, généralement, ces personnes-là ont pas mal tout le temps fret. Et moi, j'ai une blonde essentiellement qui sont tripes dans la vie, c'est Jack et le poil, je fais bien qu'il fasse 40 dans la maison, mais on dort au deuxième étage. Fait qu'il fait fucking chaud dans la maison. Fait que moi, je me cache, je me cale une douche calée. Genre, physiquement, boire une douche à fois. Je me prends une douche vraiment, vraiment froide dans le coucher, parce que sinon, je crève de chaud en haut, tu sais. Puis, ouais. Je m'en sers souvent comme en même temps d'un petit test mental. De genre, dès que tu pars l'eau frette, t'as envie de sacrer ton camp de là. C'est indépendamment. Ouais, tu t'habitues. Mais pas tant, là. Genre, ça reste tout le temps fondamentalement. Puis ça, je pense qu'il peut y avoir des bénéfices sur l'aspect mental dans le faire. Surtout si ça va nuire à ton sommeil parce que tu vas suer comme un cochon en haut. Là. Je pense que ça a probablement une certaine application. Mais je n'oserais pas mon petit bain vider mes trucs de glace pour embarquer là-dedans avant de me coucher. Il y a la facilité qui se fait avec la douche. Fait que, est-ce que tu penses qu'il y aurait toute cette grosse intro-là pour dire est-ce que tu penses qu'il y aurait des bénéfices à le faire juste avec, mettons, une exposition à l'eau froide sans nécessairement avoir une immersion?
Ben c'est ça. Avec lorsque tu as l'exposition à l'eau froide sans être immergé en dessous de l'eau, ça change beaucoup quand même.
Yeah. Okay.
Donc, ça semble être beaucoup moins efficace l'exposition externe, si tu veux, plutôt que l'immersion. Okay. Entre autres parce que l'effet de refroidissement est beaucoup moins important. Tu sais, le meilleur exemple, c'est quand quelqu'un fait de la fièvre, on lui dit tu rentres dans un bain tiède ou froid, tu vas pas prendre une douche tiède ou froide. Tout le monde dit « Ah, c'est parce qu'il ne sera pas debout. » Non, non, c'est parce que c'est moins efficace pour refroidir, parce que tout simplement, c'est une question de surface. Ouais.
OK, ouais. Bon, mais je répète ton idée ou explique ton idée. Parce que
c'est une question de surface. Donc, c'est des principes là, de théorie des fluides, des gaz. Là. Dans le fond, c'est la
fameuse théorie des fluides et des gaz. Je comprends, ben, écoute, je comprends tout maintenant.
Ça va mieux maintenant. Non, mais c'est ça. C'est, plus tu as une grande surface... Mais plus tu as une grande capacité à perdre la chaleur, l'eau, c'est un élément qui a une très grande capacité d'absorption de la chaleur. Donc, c'est un vecteur super intéressant pour la faire évacuer ou la faire entrer, là, l'eau chaude ou de l'eau froide. Là, on utilise de l'eau froide qui est à une température inférieure au corps qui va faire en sorte que ça va évacuer la chaleur. Donc, ça va faire il va avoir un gros gradient. Là, ça va être... Lorsque tu vas avoir de l'eau qui coule sur toi, qui va perler, c'est plus similaire à un effet de sudation pour perdre la chaleur.
Ah, puis c'est probablement pour ça que c'est plus efficace quand tu es dans un sauna chaud, mettons pour
Ben,
chauffer
tu
un sauna froid, j'imagine.
sais.
Un
Ben,
sauna humide versus un sauna sec, excuse-moi, pardon.
Là, c'est à cause de la présence d'air, donc le taux d'humidité qui va limiter la capacité à évacuer la chaleur, puis il va
OK.
falloir que tu sues plus.
Ah, OK, mon Dieu, c'est pas la même
Fait que ça
affaire, je
va
pense.
non, c'est ça, ben, un sauna humide va te déshydrater davantage qu'un sauna sec.
OK, fait que ça n'a pas rapport dans le fond. Ben,
C'est des principes similaires, c'est dans la même famille, là. Mais tu sais, exemple, c'est beaucoup plus long de souffrir d'hypothermie en dessous d'une douche froide que de souffrir d'hypothermie immergée dans l'eau.
ça c'est bon. Ça c'est good. On
sais?
comprend maintenant. Écoute, je suis rouillé, moi, là. Ça fait un bout que je n'ai pas
Ouais.
vu d'épisode. Il va falloir activer mon TV, là. Dernière lecture, ça a été Dune puis des mangas. Écoute, on n'est plus dans
Ouais,
les rêves,
écoute.
là. Pas de manuel de statistique en arrière, là.
Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, d'exposer, c'est la même chose de dire d'appliquer des poches de glace. Ben, tu sais, c'est sur une surface limitée. Fait que c'est un
Ouais.
peu moins efficace comme tel. Puis l'autre élément que moi j'ajouterais, c'est quelque chose qui ne semble pas avoir été mesuré. C'est, ben, effectivement, le gradient de température corporelle, donc l'écart entre la température interne puis la température périphérique. Moi, je ne l'ai pas vu rapporté dans aucune étude que j'ai lue là-dessus. De plus en plus, on a des outils. Moi, j'en ai une petite bebelle là, qui peut mesurer vraiment la température, le core temperature, puis la température périphérique.
Le nombre de fois que je t'ai entendu dire cette calisse de phrase-là. Fait que là, il mesure
Ouais, je
pas
me
ça.
souviens.
Moi, j'en ai une petite
Mais
bébelle
non, ben écoute, c'est pas donné, là. Tu sais, c'est un 400-500$, là, mais tu sais, moi j'adore ça, mais tu sais, là, tu commences à comprendre des affaires. Est-ce que là, tu vois, OK, la température interne, tu sais, est-ce que je fais affecte la température interne? Tu sais, m'a donné un exemple, là. En classe, à l'université, à un moment donné, il y en a qui disent, ah, ben, on va faire un échauffement, on va faire des jumping jacks, ça va m'échauffer. Il dit, parfait, on va le mesurer. Fait qu'on va mesurer si ça change la température comme telle, tu sais. Fait qu'il commence à s'activer, etc. Température, core temperature, flatline reste pareil. Température de la peau augmente un petit peu. Fait que je dis, OK, effectivement, le fait de faire des jumping jacks, tu as augmenté ta perte de chaleur, fait que tu t'échauffes, tu sais. On l'a testé avec du stretching. On dit, ah, tu t'étires, ça échauffe-tu? Non, pas de différence de température. Bon, ben, pour s'échauffer, les étirements, ça n'a aucune valeur. Pas juste parce que je te le dis, regarde les chiffres.
C'est ça, ouais.
Fait qu'il faudrait faire la même chose, de dire, bon, mais là, tu es en immersion en eau froide, est-ce que ça change? Parce que ce que tu veux quand tu fais, c'est soit les bains contrastes, soit les bains glacés, ou etc., c'est que tu veux avoir un impact sur la température centrale. Ben, c'est ça, quand ça bouge, que ça joue sur le système nerveux autonome, qui va jouer sur vasodilatation, vasoconstriction, modification des flux. Ça change beaucoup de choses, mais il faut que tu affectes ta température corporelle centrale. Fait que si tu ne l'affectes pas, puis tu n'essayes pas de la rééquilibrer, là, c'est pas volontaire, mais involontairement, je suis pas convaincu que les effets sont les mêmes.
Ouais,
C'est pas tout le monde qui thermorégule de la même façon. T'sais, je vais te donner un exemple sur un test de VO2 max à température à 20 degrés. Moi, j'ai quelqu'un, à partir du warm-up, sa température corporelle centrale s'en va en augmentant. Ça monte, ça monte. Cette personne-là, écoute, c'est un cycliste, là, il va rouler à 25 degrés dehors. Moindrement, là, que ça dure 20-30 minutes, il va souffrir de la chaleur. Il thermorégule pas.
C'est drôle, on avait testé, en fait, moi, au début de la période de marathon, puis t'avais fait. Comment tu mesurais ça, la chaleur déjà? T'avais pas quelque chose que tu
C'est
mesurais?
un petit appareil là, qui est sur le tronc, là. Ça
Ouais,
va,
ouais,
ouais, le core, pour ceux qui sont
ouais.
intéressés, CORE, là.
Et je me rappelle, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit que, genre, ma capacité, ma chaleur, elle augmentait quand même pas mal vite. Fait que ça
Bon.
pourrait être pertinent à m'amener de faire des entraînements de même. Puis j'étais comme, ah, vois-tu, j'ai tout le temps pensé que c'était pas un problème. Mais après l'avoir mesuré, tu fais, holy shit, ok, ouais.
Ça pourrait l'être. Tu sais, tu vérifies. Ben non, moi, je cours à 35 sur la plage, puis ça va bien. Écoute, ben
Ça
correct.
serait soin, c'est ça.
Mais c'est ça. Tu sais, moi, sur une de mes courses, à un moment donné, je l'ai vu. J'étais là comme, oh boy, je commence à chauffer. Fait que, let's go, je me suis aspergé d'eau. Essayer d'évacuer la chaleur, tu sais. Parce que je le voyais que ça montait. C'était pas encore trop haut. Mais tu sais, ça prend pas grand-chose. Si ça monte d'un degré et demi, là, 2 degrés, là, ta température corporelle centrale, là, oublie ça, là. Tu as une drop là, de
Ouais.
10, 15, 20 % de ta VO2, là.
Non, c'est ça. Puis contrairement à. Puis ça, c'est probablement une des seules choses que tu n'as pas une petite bébelle chez vous pour régler ça là, dans ta cave. Là. Fait que c'est ça. Ah, en fait, le lab est rendu à l'étage supérieur, en fait. Le lab n'est plus dans la cave. Fait que c'est ça, il y a eu une évolution. Mais sérieusement, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, mais pour revenir au sujet initial, je pense, qui va être un peu plus en lien avec ce qu'on disait sur tout ce qui est récupération, un peu plus. Est-ce que tu avais fini la parenthèse sur l'entraînement résistance? T'avais-tu quoi que ce soit ou tu voulais qu'on spin ça?
Ouais, ben, tu sais, dans le fond, c'est juste peut-être summariser un petit peu. C'est...
Ça me semble une excellente idée, ouais. Ouais. Après 30 minutes.
Si tu dis, moi, je fais ça pour la récupération,
ouais.
Ben, faut que tu dises, c'est quel aspect de la récupération je vais travailler avec ça.
Mm-hmm.
Deux, comment tu fais pour savoir que ça marche? Autre élément important.
Parce il y a que, monde moi, qui sent vraiment bien avec ça, par exemple.
Ben, c'est un phénomène qui est rapporté pas mal partout, le sentiment de bien-être. Excellent, ouais. C'est bon. Mais si tu ne performes pas plus, tu sais, c'est correct. Là. Moi, si tu te sens comme de la merde, mais tu performes deux fois plus, écoute, comment tu gères ça de te sentir pas bien? Parce que tu performes, tu sais.
Ouais,
si tu te sens super bien, tu performes deux fois moins, ben, je suis bien content que tu sois heureux et que ça aille bien, là, mais tu performes pas.
Mm-hmm.
Tu sais, fait que c'est de voir comment tu vas évaluer que ça fonctionne. Et c'est ça, c'est une des difficultés avec l'exposition au froid, surtout l'immersion. C'est bon, est-ce que ça affecte ta température centrale, de un? De deux, est-ce qu'effectivement ça améliore ta récupération au-delà de ta perception? Qu'est-ce que tu mets en place pour savoir que ça t'aide à récupérer?
Mm-hmm.
Puis ça, c'est. Moi, il n'y a personne qui le fait. Tout le monde, il va au feeling. Mais si on le sait que ça a un effet sur le feeling, mais pas nécessairement ses autres affaires.
Ouais.
Puis finalement, ben c'est ça, ça semble avoir un effet qui va ralentir ou atténuer la réponse inflammatoire, surtout à court terme, à plus long terme, parce que l'hypertrophie, la réponse inflammatoire, c'est plus dans le 30 heures et plus. Ça, il y a moins de données. Potentiellement, ça pourrait tendre aussi vers ça. Fait que moi, je ne l'utiliserais pas, à moins que ma vie en dépende pour que je sois heureux. Là. Mais sinon, si je veux gagner de la masse musculaire, j'éviterais ce trouble-là.
Et tu sais, c'est assez logique aussi de penser, là, on a Schoenfeld, l'homme dont on ne prononce pas le nom, qui est très, très spécialisé en hypertrophie. Par contre, l'inflammation dans le corps humain, ça sert essentiellement à générer des adaptations. Fait que, tu sais, cette inflammation-là pourrait avoir un impact. C'est plus... Je ne dis pas que ça l'est, OK? Je dis juste que c'est plus logique d'assumer que ça aura un impact négatif aussi sur l'entraînement aérobique que l'inverse. C'est que ça aura un impact similaire, je pense. Qu'est-ce que toi, t'en penses?
Ça va dépendre parce que l'entraînement aérobie, si c'est une question, mettons les réserves de glycogène. Je vais te donner un exemple. Tu fais ton exposition au froid, puis tu n'as pas d'apport en glucides post, puis ça allonge, si tu veux, le moment entre l'épuisement de tes réserves de glycogène puis la consommation externe de glucides. Je vais te dire, peut-être pas un bon move. Après ça, si tu le fais tout de suite après, puis tu consommes des glucides, il faut voir. Ça a-tu un impact sur le système digestif? Ouais, ça peut ralentir la digestion. Deux, ça a-tu un impact sur la circulation sanguine périphérique? Ouais, quand tu es exposé au froid, ils vont avoir une réduction de la circulation périphérique. Ouais. Fait que tu as moins de glucides qui vont se rendre aux muscles en périphérie. Fait que tu peux réduire ton renouvellement de glycogène. Fait que ça serait négatif. Si tu as une fatigue du système nerveux central parce que tu as fait un gros volume d'entraînement,
qui est là, c'est le nerf de la guerre en endurance.
C'est ça. Fait que si tu veux rééquilibrer, si tu veux ton système nerveux autonome, parasympathique, sympathique, pour optimiser ta récupération nerveuse, alors là, ça peut être une stratégie intéressante. Parce que ça va avoir un effet là-dessus. Mais là, encore là, est-ce que tu le mesures? Est-ce que tu vas faire une mesure de variabilité cardiaque pour voir l'impact de ton immersion au froid? Si effectivement, ça a relaxé ton système sympathique, puis ça a promu un petit peu le parasympathique. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut voir, là. Est-ce que ça fait ça? Si toi, quand tu le fais, ça fait ça, puis tu récupères bien, be my guest, fais-les. T'sais, tu l'as testé, tu as vu, tu as pris des chiffres, tu n'es pas allé juste au feeling. Moi, personnellement, faire des immersions au froid, oublie ça. Pas pour de la muscu, pas pour du cardio. J'aime pas ça. Là. Je me sens pas bien, j'aime pas ça faire ça. C'est un supplice. That's it.
Mais pour faire du pouce là-dessus, c'est ça. Je pense que c'est quand même important aussi de le voir de même. Puis, je sais pas à quel point je veux rentrer là-dedans. Je pense pas que je veux rentrer là-dedans, mais je pense que c'est quand même important de le souligner. J'ai l'impression que toute la sphère du wellness est en train de cacher beaucoup d'affaires derrière la valeur de santé. T'sais. Puis que c'est genre un tout se fait au nom de la santé, puis du bien-être, puis la longévité, puis plein des affaires de même. Puis quand tu mesures réellement ça, c'est drôle qu'on parle de ça. Tu sais, je réfléchissais quand même pas mal à ça ces temps-ci, puis je me disais, ça me fend le cul de me dire que sur des paramètres de santé, puis potentiellement des paramètres économiques, je vais être une des premières générations qui va donner une espérance de vie qui serait potentiellement plus basse à mes enfants que tout le monde avant moi. C'est horrible comme réflexion quand tu penses à ça, parce que t'as quand même un devoir genre envers les générations d'après, particulièrement si tu choisis d'avoir des enfants ou non, je pense. Là. Mais tu sais, puis en même temps, c'est pas une composante qui est individuelle, là. C'est une composante qui est vraiment, vraiment comme collective à 100%.
C'est les deux.
Mais mon point, c'est plus genre, pour ramener au froid, j'ai l'impression que le monde valorise beaucoup la valeur de santé parce que ça va être un problème dans les prochaines années jusqu'à un certain point, mais qu'on se ramasse à mettre plein d'affaires de l'avant. Puis quand tu mesures ça, tu es comme un étape où est-ce que tu es comme ce qui fait que l'humanité, ce qui fait que la génération de mes parents vivait plus vieux que potentiellement la génération de mes enfants, c'est pas tant le fait qu'il y avait ou non une exposition au bain de glace. Il y a d'autres variables à considérer. L'accessibilité aux soins de santé en est une, par exemple. mais anyway, c'est ça qui me prend le cul un peu là-dessus, je te dirais, à ce niveau-là. Puis pour ramener au bain de glace aussi, parce que je pense que c'est dur de parler de ça sans nécessairement ramener la composante récupération, qui est vraiment, vraiment importante. T'sais, je te fais une autre métaphore très, très importante, probablement pas, sur ma propre entraînement l'année passée, mettons, où est-ce que j'étais tout le temps... Tu peux le dire, man. Puis tu peux en parler tant que tu veux sur des fucking podcasts tout le temps. Tant que tu le vis pas, ça en est une chose, ou que tu l'as pas vraiment fait l'erreur puis assimilé l'erreur, tu sais. Mais je parlais beaucoup de gestion de l'intensité puis de théorie de l'échec, de rapid reserve, tout ça, l'année passée, parce que dans mon propre training, ça a longtemps été, voire l'année passée, c'est quelque chose avec lequel je te regardais beaucoup parce que je poussais trop tout le temps. Puis je me disais, il faut que je sois proche d'échec musculaire, il m'en restait une, puis il m'en restait jamais une. Fait que je me ramassais minimalement à faire beaucoup de junk volume pour rien. Au pire, à entretenir une technique de marde, puis à être constamment blessé pour rien. Fait que tu mélanges carrément la forêt avec l'arbre, dans le sens que tu es dans une situation où est-ce que minimalement tu ne rentres pas assez de volume pour progresser, puis au pire, tes non-stop blessures d'épaule font que tes progrès à long terme sont quand même limités un peu, tu sais. Ouais. Puis à partir du moment où est-ce que tu acquiesces clairement ça, que dans le cas de ce scénario-ci, c'est une mauvaise quantification de l'effort, premièrement, mais la deuxième affaire, c'est aussi de comprendre que la limite, c'est toujours la récupération qui est quand sérieux. Tout le temps. Puis quand tu tombes dans les bains de glace ont un effet sur la récupération, mais t'es comme, on n'est pas si sûr que ça. Puis encore là, l'idée de quelle récupération, c'est quand même vraiment, vraiment important. Parce que quand tu arrives dans une étape où est-ce qu'on parle principalement de musculation, si tu réduis ma récupération d'un effet vraiment minimal, si l'on parle de stack bayésienne que je ne comprends rien, mais mettons un pourcentage arbitraire là-dessus, juste pour mon exemple. Admettons que tu as un effet vraiment, vraiment mineur sur la récupération, au lieu d'utiliser les récupérations, mais un 10%. Mm-hmm. Quand même conservateur, right? T'sais, 10% effet négatif vers le bas, c'est pas tant que ça, right? 10% dans un contexte de même pour un gars qui se bat pour une rep par semaine, parce que quand tu arrives à un certain niveau d'entraînement, c'est ça, tes entraînements, tu crèves sur une répétition de plus, tu sais. Hey, ouais. C'est significatif en maudite merde comme impact.
Puis le pire, ouais. C'est que c'est cumulatif aussi.
Mmh, parce que t'as raison.
Ton 10% du lundi, si tu te réentraînes, puis tu accumules encore 10% de trop, ben, ça ne sera pas 10 plus 10, mais tu sais, ton 10%, tu as récupéré, mettons, tu es rendu à 5%, mettons. Ben, tu redroppes de 10, tu es rendu à moins 15.
Ouais, c'est intéressant de le voir de même. Hein.
Tu remontes, fait que tu as le classique là, qu'on voit, là, où est-ce que ça drop, là. Tu sais, ta récupération, tu t'en vas tout le temps en bas. Ben, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense, là, la régression au niveau des adaptations à cause d'un cumul de fatigue trop important.
Ouais.
Fait que tu sais, c'est sûr que dans les prochaines années, tout le monde va commencer à parler de récupération, toutes les hot, tu sais, les hot topics, ça va être ça.
Il y a un sujet qui est parlé uniquement à partir du moment qu'on est capable de le monétiser. C'est pratique en maudite marde que tout le monde parle de bains de glace quand on vend des bains de glace portables à 6 000$. Mais comment tu fais pour mesurer adéquatement la récupération? Parce que même le HRV, je sais que c'est très prometteur, mais sous sa forme actuelle, c'est fucking chiant. De prendre son HRV pour le mesurer. À partir du moment où est-ce que tu ne me sors pas, mettons, ma montre qui le mesure de manière relativement fiable au poignet, ce qui est quand même assez discutable, puis tu n'as pas une solution vraiment pratique et applicable, ça va être dur d'amener la récupération sur la scène, mettons.
Pour des gars comme toi puis moi qui veulent quelque chose qui marche, oui, c'est chiant.
Ouais.
Pour quelqu'un qui vend, c'est un avantage. Si je te vends quelque chose, puis tu ne peux pas mesurer si ça marche ou non. Il y a juste à te convaincre que ça marche. Puis en plus, tu te sens bien. Fac. Écoute, c'est bon, j'en vends.
Ouais.
Tu sais, tu veux pas quelque chose que tu peux quantifier facilement si ça marche ou non, à moins que ce soit quelque chose qui marche vraiment.
Ouais. Mais tu sais, en même temps, je pense que ça dépend parce que tu as beaucoup de monde qui vont essayer d'y aller avec une approche. Si tu as une entreprise ou tu as une business qui veut être moindrement durable, tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne marche pas à long terme. Tu peux faire la pièce pas pire sur 2-3 ans, mettons, puis à bout jeter du monde. Mais idéalement, quand tu as une business, tu veux qu'elle dure un peu, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un scénario qui va se régler un peu, ça, par
Ben oui, mais tu sais, mais tu sais, à un moment donné, moi je te dis, il s'en vendra plus des bains de glace.
Non, c'est ça. Ben.
Ça va être autre chose.
Mais hein, faut pas
Tu sais, il y a un temps, là, c'était des capsules de cryogénie, là. T'avais ça,
C'est
là.
vrai, ouais, c'est vrai.
T'as eu ça, là. Ça,
Je
les
suis
spas
d'accord.
avaient ça, etc. Regarde, là, t'en vois plus, là.
T'as raison, j'aurais
Ça a
pas.
duré
C'est très
5 ans, à
pertinent.
peu près.
C'est monstrueusement pertinent, cet exemple-là. C'est un peu plate, même.
Mais c'est
Mais,
ça, mais tu sais,
ouais.
c'est tout le temps ça. Tu peux pas mesurer les effets.
Ouais.
Il faut juste que tu ressortes quelque chose de nouveau, puis tu le mettes en marché de façon alléchante, puis c'est fait.
Moi, j'ai une
Puis là,
question. Il
ben.
s'est passé quoi avec tout le monde qu'on a congelé dans les années 80, mettons? Walt Disney, là, il est où, ce
Ouais.
gars-là, en ce moment? Il est-tu encore congelé? Puis si oui, qui paye le bill d'électricité? C'est mes
Les
seules
saucisses.
questions. Mes seules questions pour ce
Les
podcast-là,
saucisses à dog,
tu
sais-tu d'où ça vient?
sais. Non, de Walt Disney, probablement. Ouais, c'est ça.
De viande congelée. Non, non, c'est
Mais
quoi? C'est Soleil vert.
j'ai aucune idée de quoi tu parles en ce
Un
moment.
film de science-fiction. T'aimerais ça? Si tu parlais de Dune, là, Soleil vert.
C'est pourquoi je lis Dune parce que j'essaye. C'est-tu Dune, puis c'est moi qui lis Dune, puis là tout le monde qui fait le podcast rit de moi en ce moment. Comment qu'on
Écoute,
prononce ça, cette affaire-là?
Denis Villeneuve, Dune.
Dune, ok, parfait.
En anglais, Dune.
Allons-y avec Dune pour l'instant. Puis je vais essayer de garder mon
Ouais.
sérieux pendant que je dis Dune. Mais
Alors,
avec.
on salue Denis.
Ouais, tu connais Denis, c'est ton grand chum Denis. Hein. Mais tu sais, l'affaire, j'ai vraiment.
D'ailleurs, c'est parce
J'essaye.
que je n'étais pas disponible qu'ils ont pris Timothée, là,
C'est
mais
ça.
bon.
Et voilà, sinon ça l'aurait fait. Ouais. J'essaye vraiment beaucoup d'aimer Dune. Okay? J'ai écouté le film. J'ai lu le livre en anglais. Puis j'ai essayé de lire le livre. J'ai lu comme 50 pages. J'ai pensé que c'est bien trop compliqué. Puis je lis en anglais. Je vais le lire en français. J'ai lu 100 pages en français. J'ai toujours pas aimé ça. J'ai essayé d'aimer le film, j'ai pas aimé ça encore, puis je continue à essayer d'aimer Dune. Fait que je vais probablement abandonner Mathieu Dune. Mais je suis pas tant science-fiction, genre. Autant que je connais
Ah, mais c'est pour
vraiment.
ça, parce que c'est dans la lignée du Seigneur des Anneaux, un peu, là, tu sais.
Ouais, je suis sûr que sur des critères objectifs, c'est vraiment, vraiment super bon. Hey, d'ailleurs, j'ai des clients qui m'ont donné un gros fucking card du Balrog. Genre de la scène avec Gandalf, c'est malade. Il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que ça en 2024. Je te dirais. Mais anyway, ça pour dire, qu'est-ce qu'on disait?
Ben, tout ça
Bain de
pour dire
glace.
que ben, c'est ça, tu sais, on pourra pas, vu qu'on ne peut pas vérifier, c'est facile. Tu sais, moi, déjà là, si quelqu'un me vend un bain de glace en me disant écoute, c'est pas miraculeux, ça peut aider pour ci, pour ça, je l'écoute plus. Si quelqu'un me dit ah non, c'est super bon, tous les athlètes font ça, ben, moi, je connais bien les athlètes qui font ça, puis que ça ne marche pas aussi.
Ouais.
Tu sais, les deux athlètes là, qui font des bains de glace, depuis qu'on a arrêté de faire des bains de glace, ça va mauditement mieux. T'sais, ça veut-tu dire que les bains de glace, c'est pas bon? Pas du tout. Il faut que tu mesures l'effet. Ça
Ouais.
marche-tu pour toi? Puis c'est quoi tes attentes par rapport à ça? T'sais, puis t'sais, juste l'étude aussi, là, ils sont penchés. Il y a une certaine durée là-dedans. Là. T'sais, tu parles de 26 semaines, à peu près 12, entre 12 et 26 semaines pour les interventions. C'est pas en 3 semaines là, que tu vas voir une différence autant positive que négative, là.
Ouais. Mais ça ramène un peu la parenthèse à la diète cétogénique, ça. Où est-ce que potentiellement qu'il y aurait des avantages, mais il faut que
Là, c'est parce que
tu.
tu vas avoir des views là, que tu plugs cétogénique, là,
Attends
parce
un
que
peu.
si
Hey,
tu veux te
non.
faire harceler, lancer des roches, puis que ça vienne viral, là.
Non, non, hey, moi, le monde avec qui je me suis pogné le plus dans la vie, c'est jeûne intermittent. Quand j'ai une opinion qui est majoritairement très favorable du jeûne intermittent, ce qui est malade ironique, sincèrement. Mais le monde qui m'a envoyé le plus de merde, c'est le monde de jeûne intermittent. Puis j'ai vraiment une opinion qui est vraiment positive. Genre, j'ai une méthode que j'utilise encore de ça d'ailleurs. Mais anyway, ça pour dire, non, la raison pour laquelle je plug, c'est surtout sur l'effet. Parce que il y a potentiellement des effets positifs à la diète cétogénique. Mais il faut que tu sois en cétose. Ce qui est juste ça, c'est une bonne job. C'est pas en prenant genre une journée de diète low carb puis que tu as fait ça prend 3-4 jours, je pense, avant que tu roules majoritairement sur tes corps cétoniques en faisant une.
Ben, tu sais,
Même
faut que tu
non, là.
vides tes réserves, faut que.
Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est du trouble, là. Puis là, potentiellement, si tu te rends là, après avoir passé au travers de ta fameuse keto flou, tu vas bien filer. T'sais, quand tu vois ça, il y a un nom qui a été nommé aux symptômes qui se passent lorsque tu transitionnes dans cette. Tu vois ça comme tu veux. Je ne sais pas si c'est un réel phénomène d'ailleurs, maintenant qu'on en parle. Mais anyway, tout ça pour dire, t'sais, il y a un délai à ces affaires-là, puis je pense que c'est important de le voir aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Fait que là, tu es comme crif, man, commencer à planter des graines pour récolter un fruit dans 6 mois. C'est-tu vraiment la meilleure chose que je peux faire comme athlète en ce moment?
Surtout si ça me coûte 6 000$ pour un bain qui va me prendre la place. Moi, je n'ai un athlète en tête, là, il vit dans un studio, là, il n'y a pas de bain. Chez eux, il y a une douche, la titre. Puis là, il dit, hey, je n'ai vu un, là, je pourrais l'avoir pas cher. Je dis, là, tu vas le mettre où, man? Ton salon. Tu sais, il dit, ben non, mais c'est portable, ça se plie et tout. Ben, ouais, mais le temps de le remplir, de le vider, faut que tu le branches, faut que. Pas sûr, moi, que c'est un bon investissement. Tu sais, c'est comme, mets une planche de bois dessus, puis fais une table avec, là, puis t'enlèves la planche quand tu veux t'en servir. Mais faut que tu y penses, là.
Mais ce qui me dérange le plus, je pense, avec toute la thématique, c'est pas tant que j'ai de quoi contre les bains de glace aussi, là. C'est vraiment plus la thématique que le monde cherche tellement à être distrait de ce qui est hors de leur contrôle qui va vraiment améliorer leurs affaires. T'sais. Quand tu as du monde qui arrive de programme avancé ou de stratégie d'entraînement, quand tout le monde est sur son hostie de téléphone, j'ai commencé à sacrer vraiment beaucoup, il faut juste l'action un peu sérieux. Quand le monde sont sur leur maudit téléphone, genre tout le temps, genre juste avant de se coucher, puis écoute un Netflix. Puis que la gestion de caféine est fucking all over the place. Puis qu'il n'y a pas vraiment de routine, qu'il n'y a pas vraiment d'alimentation autour du training pour faciliter les performances. Puis qu'il n'y a pas vraiment de tracking de tes charges puis de ton progrès puis qu'est-ce qui compte à ça. Veux-tu bien déposer ton bain de glace à 6 000$?
Mais ça fait récupérer plus.
Mais c'est ça mon point. C'est genre la plupart du monde s'en sert pour d'une distraction de qu'est-ce qui compte vraiment pour eux, genre.
Ouais.
Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment, vraiment un problème parce que là, tu prends de l'énergie qui serait mise sur quelque chose qui a un retour positif, puis tu le mets sur quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'il va avoir un retour. T'sais?
Exact.
C'est la même parenthèse que les suppléments. C'est genre, oui, man, tu peux remplacer certaines carences en théorie avec une supplémentation. La plupart du monde, la raison pour laquelle ils sont carencés en magnésium, c'est parce qu'ils ne mangent pas assez de légumes verts. Fait que là, t'es comme, tu peux prendre toutes les piles de magnésium que tu veux, mon homme.
Il va falloir être. Tu manges juste pas plus de légumes verts.
Ouais, parce qu'il va falloir. Ça serait un autre sujet d'ailleurs qu'on pourrait faire maintenant podcast qui serait genre, est-ce que c'est vrai, tous les discours qu'on entend du monde de l'entraînement, que l'alimentation c'est plus pareil et que tout le monde devrait supplémenter anyway parce que insérer quoi que ce soit la raison, ça serait peut-être pour un autre sujet de podcast. Mais. On fait-tu un petit wrap-up parce que tu m'as dit que tu avais quelqu'un dans 6 minutes, littéralement. Fait que,
ouais, écoute, bain de glace pour ou contre, moi je trouve que c'est bien du trouble pour ce que c'est. L'étude, tant la méta-analyse, tant supporter ça aussi, qu'il peut y avoir des effets bénéfiques là, à ça sur certains aspects de la récupération. Mais dans l'ensemble, là, si tu t'entraînes en hypertrophie, moi je pense que potentiellement c'est pas quelque chose qui va être favorable. Je regarderai ailleurs pour trouver des solutions si je trouve que ma récupération va pas assez bien.
Moi mon truc c'est pas mal ça essentiellement aussi. Je te dirais l'autre affaire, c'est faites attention que ce soit pas une distraction de ce qui compte vraiment pour vous. Vous voyez bain de glace ou voyez quoi que ce soit votre red shining object en ce moment en entraînement. Parce que quand tu commences à le simplifier aussi puis tu arrives à cette étape-là, tu te rends compte que il n'y a réellement pas de nouvelles informations, méthodes ou secrets qui vont venir te sauver en entraînement. C'est beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts imparfaits longtemps, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'échecs, puis un désir de progresser actuellement à chaque séance. Puis à partir du moment où est-ce que tu te rends compte que c'est simple et horrible de même, parce que ça devient fucking complexe et difficile, ben t'arrêtes de distraire avec toutes les autres merdes qui comptent autour. Puis je pense que le monde du fitness ont tendance à vendre vraiment, vraiment beaucoup d'autres trucs autour de ça. Puis j'ai l'impression qu'en entraînement, les bains de glace tomberaient dans cette catégorie-là aussi. Fait que ça peut être bénéfique. Je pense que si le monde a des impacts sur leur sensation de bien-être et toutes ces affaires-là, je pense que c'est quelque chose qui est à pas négliger. Là. C'est le fun quand même là, pour le monde. Puis c'est important de se le demander, surtout quand tu ouvres la porte du wellness. Mais en entraînement, peut-être mettre des petits guillemets là-dessus. Là.
Exact.
Ça serait ça mon petit take. Si vous avez aimé le podcast, on va en refaire avec Maxime. C'est une résolution qu'on a repris, que j'ai repris, que je t'en ai pas reparlé. On va essayer d'en sortir une couple aussi. Fait que si tu veux, là, t'es en direct. Hey, non, on n'est plus en direct. T'as le temps de corriger ça.
Ben non, c'est ça, là. On a choqué ça.
Ouais, on va s'en reparler une autre fois. Mais en fait, j'ai plus de médias sociaux, man. Fait que ça, comment tu veux ça? Je me suis fait pirater à toutes les médias. S'il y a un momentum dessus, je l'ai plus, là. Fait que ça risque d'être un rough de faire.
Moi, je t'en félicite. C'est une bonne chose.
Ouais, pour vrai, c'est. En tout cas, ben, business-wise, c'est pas le best, là. Je sais pas, je sais pas, c'est pas le best, là. Mais en termes de santé, bien-être, là, ça, c'est le fun. Sérieux, pas de médias sociaux, là, ça fait du bien en maudit marde, là. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que quand je me suis attaqué, j'ai juste addé mes clients. J'ai pas addé toutes les affaires, fait que j'ai pas vraiment de distraction. Fait que j'ai comme un Facebook de 50-80 personnes max. J'ai pas juste des clients, j'ai des membres de la famille, des amis proches, mettons, mais. J'ai comme putain d'autres gars qui font d'autres affaires, puis je me fais putain bombarder d'influenceurs ou de gym ou d'affaires de même. Fait que quand même intéressant un Facebook de 80 personnes, je te dis.
Ouais, ça a son intérêt.
Puis Facebook, c'est le seul média social où est-ce que, mettons, comme TikTok, tôt, ben là, t'as comme un gros feed, mettons, mais la fonction feed du Facebook n'est pas vergeuse encore. Fait que, anyway, c'est pour dire, on est rendu loin. Fait que si vous avez aimé, on va en sortir d'autres des podcasts avec Maxime. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me dire. On va s'en faire plaisir. Écrivez à Maxime ou à moi. Où est-ce que les gens peuvent se trouver, Maxime, s'ils ont des questions pour toi?
DrKin.com pour ne pas passer par les médias sociaux, justement. Fait que, on peut communiquer avec moi via le site là-dessus. Ça me fait plaisir.
Parfait. Puis c'est ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se reparle très bientôt pour un autre épisode de la Confrérie de métal. Ciao, bye!